OK, on va y aller avec notre 43e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va voir le réveil au 18e siècle en Angleterre avec le personnage, surtout John Wesley, mais on va voir aussi d'autres personnages, mais c'était surtout celui-là qui était l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Alors, au 18e siècle, l'Angleterre a connu un réveil spirituel et le Seigneur a utilisé John Wesley pour y travailler. Alors, l'État, au 18e siècle, l'état spirituel de l'Angleterre était vraiment déplorable. La profession chrétienne avait tombé très bas. Elle avait le nom de vivre, mais elle était morte, un peu comme ça dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 1. Comme on l'a vu, l'Église officielle se perdait dans le formalisme, dans les pratiques extérieures. L'état moral du pays avait énormément baissé. L'amour de l'argent servait de ressort essentiel à la politique et à la vie courante. L'écrivain français Montesquieu trace un triste tableau de cette disposition fâcheuse. Il disait « L'argent est ici souverainement cultivé, l'honneur et la vertu, peu. Il n'y a point de religion en Angleterre. Si quelqu'un en parle, tout le monde se met à rire. Avec cela, on ne faisait rien pour relever le niveau des classes populaires qui menaient une existence grossière et désordonnée. Dans les régions minières, on se croyait en plein pays sauvage. Les superstitions les plus vulgaires trouvaient créance. On croyait aux esprits, à la sorcellerie, à la bonne aventure. La jeunesse se rendait insupportable par ses allures turbulentes et licencieuses. On insultait les honnêtes gens. On querellait qui voulait rester paisible. On coudoyait brutalement les passants pour les faire tomber dans le ruisseau. Le soir, on attaquait les promeneurs à coups d'épée. Certes, il y avait en Angleterre des hommes pieux. Bien entendu, ils souffraient cruellement de ces débordements de mal, mais très peu nombreux, faibles et sans influence, ils ne savaient que faire pour endiguer le courant, ni même pour lui résister. Les quelques efforts tentés dans ce sens se heurtaient à l'incrédulité, au scepticisme qui faisait des ravages terribles. Mais Dieu avait les yeux sur ces lamentables circonstances. En la personne de John Wesley, il suscita l'homme qu'il fallait pour secouer l'Angleterre de sa torpeur spirituelle. Alors, on va parler un peu du rôle de John Wesley. Alors, il est né en 1703. Il était le fils d'un pasteur, digne homme s'il en fut, mais dont le caractère offrait des extrêmes curieux, tempérament élevé mais excessif, courage et imprudence, largeur d'esprit et versatilité, ardeur et violence, attachement à l'Église et bigotisme. Pour lui, la religion consistait en une soumission stricte aux règles prescrites, mais il ne possédait pas la foi en Christ, sauveur des pécheurs. Il eut 19 enfants, dont 13 vécurent. Leur mère, personne très supérieure à son mari, d'une piété rudimentaire, quoique fervente, dépensait une énergie admirable pour les élever dans la crainte de Dieu. Douée d'une très forte volonté, elle avait imposé à sa maison une règle rigoureuse. Tout devait se faire à heure fixe. Repas, devoirs, sommeil, les cris étaient sévèrement interdits. Chaque enfant commença à apprendre à lire le jour où il avait 5 ans. La première leçon se passait à assimiler l'alphabet. Dès la deuxième, on éplait le premier verset de la Genèse. Une fois entraîné, l'enfant recevait 6 leçons par jour. Les aînés s'occupaient des cadets. « J'admire ta patience », disait un jour M. Wesley à sa femme. « Tu as répété la même chose au moins 20 fois à cet enfant. » « J'aurais perdu mon temps », répondit la digne mère, « si je l'avais répété 19 fois seulement, puisque j'ai réussi qu'à la 20e. » Elle donnait elle-même l'instruction biblique à ses enfants, et dès qu'ils étaient en âge de comprendre, avaient avec chacun d'eux de fréquents entretiens particuliers sur leurs intérêts spirituels. Les paroissiens de M. Wesley père ne se distinguaient guère que par leur vulgarité et leur indifférence complète à l'égard des choses de Dieu. Ne pouvant pas leur enseigner ce qu'il ignorait lui-même, leur pasteur se bornait dans ses prédications à stigmatiser leur vie de péché sans leur montrer jamais le chemin du salut. Aussi nourrissait-on à son égard une haine féroce qui se traduisit par divers attentats, jusqu'au jour où des malandrins mirent le feu à la cure. On réussit à sauver tous les enfants, sauf John, qui fut oublié. Au dernier moment, un homme parvint à le retirer du brasier et sans que les flammes l'eussent atteint. Bien des années plus tard, comme on avait fait son portrait, John Wesley écrivit ces mots en bas du tableau. « Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? » Comme on peut lire dans Zacharie, chapitre 3, verset 2. Alors, on va parler maintenant des études théologiques de John Wesley. Dès l'âge de 18 ans, Wesley entreprit des études de théologie à Oxford. Il y mena une vie irréprochable qui contrastait avantageusement avec celle de la plupart de ses camarades. Son caractère aimable lui valut de solides amitiés. Il montrait beaucoup de sérieux, mais sa piété n'était qu'extérieure. Il écrivit plus tard, « J'ignorais complètement la nature et le caractère de la justification par la foi. Je n'avais même que des idées confuses sur le pardon des péchés. Je croyais qu'il fallait en ajourner la possession jusqu'à l'heure de la mort ou au jour du jugement. Quant à la foi qui sauve, j'en ignorais également la valeur, croyant qu'elle n'était autre chose qu'une ferme adhésion à toutes les vérités contenues dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il manifesta des talents si extraordinaires qu'à 23 ans, il se vit attribuer une chaire de grec. À ce moment, son frère Charles, de 5 ans plus jeune que lui, le rejoignit, ainsi que plus tard, un de leurs amis, George Whitfield. Animés tous trois de dispositions très sérieuses, ils résolurent de se rencontrer chaque soir pour s'occuper ensemble de la parole de Dieu. D'autres étudiants s'associèrent à eux, si bien qu'ils en vinrent à constituer une petite congrégation dirigée par John Wesley, auquel tous reconnaissaient sans hésitation des qualités intellectuelles supérieures, une grande maîtrise d'esprit, un don spécial d'organisation qu'il avait sans doute hérité de sa mère. Dans ces réunions, en effet, malgré leur cachet intime et familier, tout était minutieusement réglé, si bien que les participants ne tardèrent pas à se voir affublés du nom de méthodistes. Leur activité ne se bornait pas à des entretiens, ils visitaient les malades, parlaient du Seigneur dans les prisons, distribuaient des aumônes aux pauvres dans la mesure où leurs faibles revenus le leur permettaient. Toute sa vie durant, Wesley se montra très économe de son temps. Ayant remarqué qu'il se réveillait régulièrement au milieu de la nuit, il fit un effort sur lui-même pour arriver à réduire son sommeil. Il raconta à ce propos, « Par la grâce de Dieu, je suis parvenu à me lever tous les jours à 4 heures du matin. Je puis ajouter que, tout compté, je n'ai jamais eu un quart d'heure d'insomnie par mois. » Telle fut la règle de sa vie jusqu'à son dernier jour, et il parvint à un âge très avancé. À un élève, il disait, « Vous n'êtes pas assuré d'un jour de vie. Vous ne seriez donc pas sage de perdre un moment. Le plus court chemin pour arriver au savoir est celui-ci. Premièrement, déterminez le but que vous voulez atteindre. Deuxièmement, ne lire aucun livre qui ne touche d'une façon ou de l'autre ce but. Troisièmement, parmi les livres, faire choix des meilleurs. Quatrièmement, n'entreprendre l'étude d'un ouvrage qu'après avoir fini le précédent. Cinquièmement, les lire dans un tel ordre que la lecture d'aujourd'hui serve à éclairer et à confirmer celle de la veille. » Malheureusement, ces jeunes méthodistes, malgré leurs intentions excellentes, manquaient d'une chose essentielle, la vie de Dieu. dans leur cœur. Ils croyaient plaire au Seigneur par leurs bonnes œuvres, oubliant qu'un mauvais arbre ne peut donner de bons fruits. John Wesley le constata 10 ans plus tard, alors qu'il feuilletait les lettres qu'il avait conservées de ses amis. « Un seul de mes correspondants, dit-il, déclara, et je me rappelle fort bien de l'avoir entendu sans que je le comprisse, que l'amour de Dieu n'avait été versé dans son cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné, comme il est mentionné dans Romains 5:5, et qu'il jouissait de la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4:7. Mais qui voulut le croire? Dois-je cacher la triste réalité ou bien la révéler pour que d'autres en fassent leur profit? Il fut expulsé de la société comme s'il avait perdu la raison. Tous ses amis le désavouèrent. Le monde le méprisa et lui tourna le dos. Pendant quelques mois, il vécut isolé et méconnu, puis celui que son cœur aimait le reprit auprès de lui. » Alors, on va parler de son séjour d'évangélisation qu'il a fait en Géorgie, qui était aux États-Unis. Alors, il avait été en Géorgie, dans le sud des États-Unis, qui était une colonie américaine à l'époque. Et il avait été là pour évangéliser alors qu'il n'était même pas sauvé lui-même. Mais en tout cas, ça faisait partie de son cheminement. John Wesley avait 32 ans quand on lui proposa de partir avec son frère Charles pour la Géorgie, colonie nouvellement fondée en Amérique du Nord, en vue d'y occuper des chômeurs et des gens ruinés. Leur chef estimait avec raison que ces expatriés ne pouvaient rester sans qu'on veillât à leurs besoins spirituels et qu'il faudrait aussi évangéliser les Indiens qui habitaient la même contrée. Les deux Wesley se mirent donc en route. À bord du navire qui les emmenait se trouvaient 26 Moraves qui frappèrent John, tout d'abord par leur extraordinaire sérénité en face du danger. Ses entretiens avec eux lui firent comprendre qu'ils avaient en eux une chose qui lui manquait. En quelque lieu qu'ils fussent, ils marchaient d'une manière digne de leur vocation céleste et honoraient l'Évangile par toute leur conduite. Mais ce n'est pas encore à ce moment qu'il découvrit leur merveilleux secret. À peine débarqué, il fit preuve d'une grande activité parmi les colons, les indigents, les malades, les esclaves même. Comme à Oxford, il créa de petits groupes de personnes désireuses de s'occuper de la parole de Dieu, mais ses conversations, quoique très simples, devaient se dérouler dans un ritualisme rigoureux. Wesley fit œuvre aussi d'évangéliste auprès des Indiens, comme auprès des Anglais. Cependant, scrupuleux comme il l'était, il ne tardait pas à s'apercevoir qu'il ne pouvait et ne devait prêcher des choses qu'il ne s'était pas appropriées pour lui-même. Comment parler de l'œuvre de la grâce de Dieu dans les cœurs du moment qu'il n'était pas converti? Un entretien qu'il eut avec un prédicateur morave établi en Géorgie depuis quelque temps lui ouvrit les yeux sur son état. « Mon frère, lui demanda ce dernier, je dois vous poser tout d'abord 2 ou 3 questions. Savez-vous si vous êtes vous-même un enfant de Dieu? » Comme Wesley, surpris de cette demande, ne répondait pas, le Morave continua. « Connaissez-vous le Seigneur Jésus-Christ? » « Oui, je sais qu'il est le Sauveur du monde. » « C'est vrai, mais savez-vous qu'il vous a sauvé vous-même? » « J'espère qu'il est mort pour moi aussi. » « Vous connaissez-vous bien vous-même? » « Certainement. » Mais Wesley ajoute dans son journal, « Je crains que ce ne fût là de vaines paroles. » Comme il se trouvait qu'il logeait chez les Moraves, il nota que ces gens étaient toujours occupés, toujours de bonne humeur, ils paraissaient s'être défaits de tout sentiment de colère, de querelle, d'amertume, ils se gardaient de médire les uns les autres, ils marchaient d'une manière digne de l'appel dont ils avaient été appelés, comme on peut le lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, et se rendaient un joyeux témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu, tel que nommé dans le verset Acte 20, verset 24. Charles Wesley réussit mal dans la paroisse qu'on lui avait confiée. Il accabla ses ouailles de règlements multiples, leur prescrivant comment se vêtir, comment prier, comment se comporter pendant les services religieux, se mêlant même de leurs affaires personnelles. Aussi fut-il bientôt rapatrié. Alors là, il est retourné en Angleterre. John poursuivit ses efforts pendant 2 ans, mais sans succès apparent. Aussi, il reprit lui aussi le chemin de l'Angleterre. Au cours de la longue traversée, il eut le temps de faire de profondes réflexions sur lui-même et sur les causes de son échec. Il les exprima en ces termes. « Je suis allé en Amérique pour convertir les Indiens, mais qui me convertira moi-même? Qui me délivrera de mon mauvais cœur incrédule? Je ne puis dire la mort m'est un gain, comme on peut le lire dans Philippiens 1:21. Qui me délivrera de la crainte de la mort? J'ai appris ce dont je ne me doutais pas, que moi qui travaillais à convertir les autres, je n'étais pas converti moi-même, que je n'atteignais pas la gloire de Dieu, comme Romains 3:23, qu'il y avait en moi un méchant cœur d'incrédulité, comme mentionné dans Hébreux 3:12, et que ma vie ne valait rien, puisqu'un arbre mauvais ne peut pas produire de bons fruits. Matthieu 7:18. J'appris que, privé de Dieu, je suis un enfant de colère, héritier de l'enfer. J'appris que mes œuvres, mes souffrances, ma justice, loin de me réconcilier avec Dieu, l'avaient offensé et ne saurait expier le moindre de mes péchés, plus nombreux que les cheveux de ma tête. Que je ne pouvais soutenir le regard de la justice divine, à moins que tous ces péchés ne fussent effacés. Il ne me restait donc plus aucune espérance, sinon celle d'être justifié gratuitement par la rédemption en Christ. Alors, on va voir comment sa conversion est arrivée. À Londres, il reprit contact avec des petites communautés moraves, notamment avec un pasteur, Buller, qui lui fit comprendre ce que c'est que la foi, à savoir la confiance que l'âme place en Dieu et qu'il l'assure que ses péchés sont pardonnés par les mérites du Seigneur Jésus-Christ et qu'elle est réconciliée avec Dieu. Buller le renvoya toujours au texte biblique, entre autres à celui-ci. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8:16. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. 1 Jean chapitre 5, verset 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 9. C'est le 24 mai 1738 que Wesley trouva la délivrance. Le matin, il avait lu ces mots de 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Le même après-midi, il assista à un service religieux où la liturgie portait la lecture du psaume 130. « Ô, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais il y a un pardon près de toi, afin que tu sois craint. » Le soir, tandis qu'il s'occupait de l'Épître aux Romains, la lumière se fit dans son âme. « Je mis ma confiance en Christ, raconte-t-il, en Christ seul, pour mon salut. Je reçus l'assurance qu'il avait ôté mes péchés et qu'il me sauverait de la loi, du péché et de la mort. » Comme Luther, Wesley passa par une période d'épreuves et d'expériences en apparence incohérentes, mais dont il comprit plus tard la bénédiction. Luther a l'esprit intuitif. Comme un aigle, il regarde la vérité partout où elle se présente devant lui. Wesley, esprit logique, arrive à des conclusions par l'argumentation. Alors, on va parler maintenant de son ministère de prédication. C'est ici que commence l'histoire de Wesley en tant que serviteur du Seigneur. Dès l'abord, il eut à apprendre ce qu'est l'opprobre du monde selon Matthieu 5, versets 11 et 12. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera, qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous. Il s'aperçut que le monde est demeuré ce qu'il était le jour où le Seigneur prononça ses paroles. Depuis son retour de Géorgie, 4 mois auparavant, il avait prêché dans de nombreuses églises. Immédiatement, il se vit fermer 10 d'entre elles, pour la simple raison qu'au lieu d'adresser à ses auditeurs un sermon sur un sujet quelconque d'ordre social ou moral, il leur avait parlé de la grâce de Dieu, qui justifie ceux qui croient en l'efficacité du sacrifice de Christ sur la croix. Mais il insistait aussi fortement sur l'inutilité des œuvres humaines pour obtenir le salut. Bientôt, tous ceux qui avaient jusque-là cheminé à ses côtés lui tournèrent le dos. Seuls lui restèrent fidèles son frère Charles, ainsi que Whitfield, mais celui-ci se trouvait alors en Géorgie. Comme Wesley avait reçu beaucoup de bien de son contact avec les Moraves, il crut opportun d'aller les voir chez eux. Il se rendit donc à Herrnhut, où il rencontra le comte Zinzendorf. Ce qui le frappa le plus, ce fut la prédication de Christian David. De cet humble charpentier, Wesley apprit une foule de choses qu'il ignorait et qu'il se hâta de consigner dans son journal. La parole de réconciliation prêchée par les apôtres comme fondement de tout leur enseignement est celle-ci. Ce n'est point par nos œuvres, ni par nos mérites que nous sommes réconciliés avec Dieu, mais uniquement par le sang de Christ. On dira, ne dois-je pas pleurer et m'humilier à cause des fautes que j'ai commises? N'est-ce pas chose juste et équitable? Ne dois-je pas agir de la sorte avant d'oser espérer que Dieu sera réconcilié avec moi? Je réponds, c'est chose juste et équitable. Vous devez avoir le cœur brisé et humilié. Mais ce n'est pas là votre œuvre, c'est celle de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas non plus la base de votre salut. Il repose tout entier et uniquement sur le sang de Christ. Cette parole prouve que rien ne vient de vous. Celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Romains 4, verset 5. Il n'y a absolument rien de commun entre Dieu et l'impie. L'impie ne saurait faire quoi que ce soit pour gagner la faveur de Dieu. Peut-il produire des œuvres propres à plaire à Dieu? Quelque justice, quelque repentance? Non, rien que de l'impiété. Qu'il aille donc à Christ tel qu'il est, qu'il croit en l'œuvre accomplie par Christ. C'est par cette foi, don de Dieu, qu'il sera sauvé pour cette vie et pour l'éternité. Lorsque Wesley rentra en Angleterre, il s'empressa de retrouver son frère Charles. Celui-ci lui apprit des nouvelles réjouissantes. Un peu partout, on constatait un ardent désir d'entendre l'Évangile. Dans les localités écartées surtout, il se trouvait beaucoup de petites congrégations dont les membres se réunissaient pour prier ensemble et lire la Bible. Ces chrétiens souhaitaient en apprendre davantage et, comme John et Charles Wesley se voyaient refuser l'entrée des églises, ils se mirent à prêcher partout où ils rencontraient des besoins spirituels. Ceci les engagea à entreprendre le même travail à Londres, car ils y connaissaient nombre de chrétiens isolés. Leurs noms devinrent bientôt connus. De toutes parts, ils recevaient des invitations. À leur grande joie, Whitfield revint d'Amérique et se joignit à eux. C'est lui qui prit l'initiative des prédications en plein air. Habitude aujourd'hui courante en Angleterre, mais qui, au 18e siècle, apparaissait comme le plus grand des scandales. Whitfield débuta à Kingswood, près de Bristol. Il y avait là des mines de houille où travaillaient de nombreux ouvriers, connus très loin à la ronde pour leurs mœurs brutales et grossières. Personne ne s'était jamais préoccupé de leur vie spirituelle. Aucun pasteur ne visitait jamais la localité. Whitfield s'y rendit donc et annonça l'Évangile du haut d'un tertre. Un auditoire nombreux se forma pour l'entendre. Le lendemain, il y eut bien 2000 personnes devant lui. Les jours suivants, la foule s'accrut et atteignit jusqu'à 20 000 auditeurs. Whitfield réussissait à se faire entendre de chacun et il ne tarda pas à constater l'émotion profonde qui éveillait le message apporté à ces pauvres déshérités. Beaucoup pleuraient à chaudes larmes. Puis, on vit arriver aussi des messieurs et des dames du grand monde. Le Seigneur commençait un vrai réveil en Angleterre. Débordé, Whitfield pria Wesley de venir lui aider. Celui-ci ne se fit pas prier, mais éprouva au premier moment un sentiment de malaise à l'idée d'annoncer l'Évangile ailleurs que dans une église. Il ne tarda pas à surmonter sa répugnance et mit à la prédication de la vérité autant de zèle que son ami. Il avait sur Whitfield un avantage très appréciable en présence des foules hétéroclites auxquelles il devait s'adresser. C'était un esprit d'à propos qui lui permettait de donner la réplique à n'importe qui et toujours avec humour, ce qui mettait invariablement les rieurs de son côté. L'anecdote suivante en fait foi. Après avoir travaillé longuement à Kingswood, Wesley entreprit de visiter la contrée environnante et s'en vint à Bath, station balnéaire, très à la mode alors. Toute la vie mondaine dépendait de M. Nash, qui, assurait-on, s'arrangerait de façon à faire taire le prédicateur par la violence s'il le fallait. Les amis de Wesley le supplièrent de ne pas s'exposer à un coup de force, mais il ne voulut rien entendre, comptant sur la protection du Seigneur. Il venait de commencer à parler quand Nash survint et lui demanda, comme les anciens du peuple firent à Jésus, par quelle autorité il faisait ces choses, Matthieu 21-23. Wesley répondit que c'était en vertu de celle du Seigneur Jésus-Christ. « La loi vous l'interdit, » répliqua Nash, faisant allusion à une défense formulée autrefois contre les réunions tenues en dehors de l'Église officielle. « D'autre part, » ajouta-t-il, « vos sermons ne font que terrifier vos auditeurs. »« Monsieur, » demanda Wesley, « m'avez-vous jamais entendu prêcher? » « Non. Alors comment savez-vous ce que vous avancez? » « Par le bruit public. » »« Le bruit public ne suffit pas. » « Permettez-moi de vous demander si vous ne vous appelez pas Nash. » « Oui. » »« Eh bien, monsieur, tout en connaissant votre nom, je n'oserais pas formuler un jugement sur votre compte parce que j'entends dire de vous. » Ce Nash avait une très mauvaise réputation. Il se contenta de répéter sa première injonction. « Je veux savoir ce que ces gens viennent faire ici. » Là-dessus, une vieille femme s'avança et dit, « Monsieur Wesley, ne vous inquiétez pas de cet homme. Monsieur Nash, veillez à notre bien-être physique. Nous avons souci de nos âmes. C'est pour les nourrir que nous sommes réunis ici. » Nash s'éclipsa et on n'entendit plus parler de lui. Wesley avait l'habitude de prêcher la loi en même temps que la grâce. Sa parole, calme mais pressante, stigmatisait le péché et montrait à quelles terribles conséquences il aboutit dans ce monde, déjà et surtout, au-delà de la tombe. Ses prédications courageuses contrastaient étrangement avec les sermons académiques des gens d'Église qui ne développaient que des sujets de morale courante et visaient avant tout à ne froisser personne. Wesley ne s'adressait pas à la sensibilité. Son éloquence n'avait rien de sentimental. Sans cesse, il faisait appel à la conscience, mettant ses auditeurs en présence de leurs propres responsabilités. Cité avec son frère Charles à comparaître devant l'évêque de Bristol, sous l'inculpation de scandales publics et d'infractions aux lois ecclésiastiques, Wesley répondit « Mon occupation est de faire dans ce monde tout le bien que je puis. Appelé par Dieu à prêcher l'Évangile, malheur à moi si je n'y réponds pas, surtout partout où l'on me trouve. Puisque j'ai été consacré au ministère par les hommes, je ne suis en opposition avec aucune loi humaine. Mais si ma conscience me faisait un devoir d'enfreindre l'une ou l'autre d'entre elles, j'aurais à me demander s'il ne vaut pas mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Un grand réveil se dessinait aussi dans le pays de Galles, à l'ouest de l'Angleterre, où un chrétien du nom de Harris avait défriché le sol. Comme à Kingswood, la population vivait dans un état voisin du paganisme. Jamais encore on y avait parlé du Seigneur. Tous les samedis soirs se passaient à jouer et à danser. On recommençait le dimanche après-midi. Ayant entendu parler de Wesley, Harris le supplia de venir collaborer avec lui. Wesley hésita quelque peu. Ici encore, il devait se défaire d'un préjugé et admettre qu'un laïc peut et doit, tout autant qu'un pasteur, avoir la pleine liberté de parler du Seigneur. Il se fit du reste si bien à cette idée que peu après, il écrivait « De quel esprit serait animé un homme qui préférerait, faute de connaissances théoriques, laisser périr ses pauvres pécheurs plutôt que de les voir sauvés par les exhortations de Harris ou de n'importe quel autre prédicateur, laïc ou non, pourvu qu'il fût entièrement dirigé par l'Esprit de Dieu. » C'est ici le lieu de relever un point important sur lequel Wesley et Whitfield différaient complètement d'avis, ce qui ne les empêcha pas de demeurer des amis fidèles l'un pour l'autre. Wesley était du reste ici complètement dans l'erreur, car les lectures qu'il avait faites dans sa jeunesse l'avaient fourvoyé, surtout celle de Thomas A. Kempis. Selon lui, un homme qui aurait été sauvé pourrait être privé de son salut si, par la suite, il se laissait entraîner à commettre une faute grave, soit par sa propre négligence, soit qu'il n'avait pas eu soin de rechercher constamment les directions du Seigneur. Autrement dit, il croyait à la perte du salut. D'autre part, Wesley estimait qu'un croyant peut arriver à vaincre le péché au point de l'extirper complètement de son cœur et parvenir ainsi à la perfection. La deuxième erreur de Wesley, c'est ce qu'on appelle sa foi au « sinless perfection », qu'ils disent en anglais, croyait qu'un chrétien pouvait maîtriser sa vieille nature au point qu'il en venait à ne plus pécher. Alors, c'est deux erreurs graves. Alors, Whitfield répondait à son ami par la promesse faite de la bouche du Seigneur Jésus lui-même en parlant des brebis de son troupeau. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de la main de mon Père. » On sait que, par l'histoire, qu'ils ont continuellement, tous les deux, correspondu durant toute leur vie en s'obstinant sur... Parce que Whitfield était doctrine de la grâce, lui était arménien. Alors, toute leur vie, ils ont eu des correspondances sur ce sujet-là. Alors, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, Jean 10, versets 28 et 29. Sans doute, si notre assurance dépendait tant soit peu de nous, non seulement nous risquerions de perdre notre salut, mais nous le perdrions très certainement. Je dis un gros amen avec un gros A majuscule à cela. Ici encore, nous avons la certitude que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Quant à la perfection, Whitfield rappelait que le chrétien a le péché en lui, bien qu'il possède par la foi en Christ le moyen de le vaincre, mais il doit être très vigilant. C'est pour cela que l'apôtre Jean écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons, en parlant de Dieu menteur, et sa parole n'est pas en nous. » 1 Jean 1, versets 8 et 10. Whitfield, de son côté, enseignait comme Calvin la doctrine de la prédestination et de la grâce souveraine de Dieu. Tandis que Wesley renonçait à tout voyage à l'étranger pour se consacrer à l'œuvre que le Seigneur avait placée devant lui en Angleterre, Whitfield se sentait toujours plus fortement attiré du côté de l'Amérique. Chose extraordinaire pour son temps, il traversa 13 fois l'Atlantique, la dernière fois pour ne pas revenir dans son pays. J'ai déjà lu un peu des histoires de Whitfield, c'est un gars assez extraordinaire. une traversée à cette époque-là, là, c'était vraiment des mois, là. Ça durait des mois, la misère, les personnes qui mouraient. Et on a vu vraiment le caractère de Whitfield, parce qu'il y a eu beaucoup de témoins. Il a écrit dans son journal qu'est-ce qu'il faisait. C'est un homme d'une grande charité. Ça paraissait que c'était un homme régénéré. Bien que moins robuste que Wesley, il accomplit comme évangéliste un travail immense. Également en Angleterre, en Écosse, dans le pays de Galles et en Irlande. Doué d'une voix extraordinairement forte et parlant presque toujours en plein air, les foules qui l'entouraient ne pouvaient trouver place dans une salle fermée. Il savait exposer la grâce de Dieu avec une remarquable simplicité, mais aussi avec une force de conviction telle que le Seigneur bénit richement son service. Il semble qu'on entendait sa voix porter jusqu'à 1 mille de long. Alors, ça prend une voix qui est une voix qui sort, comme on dit. Alors, cette activité incessante l'usa prématurément. À l'âge de 56 ans, au cours de sa dernière tournée en Géorgie, il dut avouer qu'il se sentait complètement épuisé. La veille de sa mort, après avoir prêché pendant 2 heures consécutives avec une puissance inégalable, il rentra chez lui à bout de force. Comme il gagnait sa chambre, il trouva le vestibule plein de gens venus pour entendre encore davantage, mais il dut se déclarer incapable de leur répondre et pria un de ses amis de le remplacer. Il monta quelques marches d'escalier, puis se ravisa en disant que ce serait peut-être la dernière occasion qu'il aurait de parler du Seigneur. Adossé à la rampe, il reprit le sujet qu'il avait développé et ne s'arrêta qu'au moment où la bougie qu'il tenait à la main fut entièrement consumée. À 2 heures du matin, il se sentit mal. Au moment où le soleil se levait, le Seigneur le retira auprès de lui. Ses dernières paroles furent « Seigneur Jésus, je suis épuisé à travailler pour toi, mais je ne suis nullement là de le faire. » Il est tout à fait impossible de raconter ici, en détail, la carrière de John Wesley, qui se poursuivit pendant un demi-siècle après sa conversion. Il parcourut le Royaume-Uni dans tous les sens, au prix de 1000 difficultés, et de dangers sans cesse renaissants, menant une vraie croisade pour le salut des âmes. Plus il se dépensait et plus Satan redoublait de furie pour compromettre son travail. Bien des fois, il courut le risque d'être tué. Dans une localité, on tira du pistolet contre lui. Ailleurs, on l'assaillit à coups de pierre et de bâton. Souvent, il eut ses vêtements mis en lambeaux. À Londres, on lança dans la foule qui l'écoutait un troupeau de bœufs avec l'intention bien arrêtée de les exciter contre lui. Un soir qu'il prêchait dans une salle, on fit éclater des fusées et des pétards. Plus d'une fois, on chercha à couvrir sa voix en battant du tambour. Une autre fois, on le souilla de la tête aux pieds avec toutes les ordures qu'on put ramasser. Boue, fumier, œufs pourris, cadavres d'animaux. Mais le Seigneur le soutenait merveilleusement. Maintenu par sa puissance divine, il ne perdit jamais courage. Ses forces physiques demeuraient intactes. Il jouissait d'une santé excellente, grâce à laquelle il résistait à toutes les privations, à tous les mauvais traitements. Ces quelques détails qu'on pourrait multiplier suffiront à montrer dans quel triste état moral l'Angleterre se trouvait alors plongée. On peut se demander jusqu'où elle serait tombée si le Seigneur n'eut pitié de ce peuple si dégénéré en lui envoyant son serviteur, admirablement qualifié pour cette tâche laboureuse et ingrate entre tous. J'ai souvent lu dans des livres qu'on attribue à Wesley et à d'autres d'avoir prêché en Angleterre et d'avoir évité la révolution comme il y a eu en France. Parce qu'en 1789, c'était à peu près à la même époque, il y avait eu la révolution en France, il y aurait pu avoir l'Angleterre. Ils étaient dans la même condition sociale. Mais alors qu'eux, ils ont été comme bénis en entendant l'Évangile dans toutes les régions, ça l'a probablement empêché une révolution qui aurait été fort probablement très sanglante. Quant aux difficultés purement matérielles, elles auraient pu arrêter tout autre que John Wesley. Faute de route convenable, les déplacements ne se faisaient que moyennant une dépense d'énergie peu commune. Voici comment Wesley lui-même décrit un trajet qu'il dut faire en plein hiver. La pluie et la grêle transperçaient nos épais manteaux. Le vent se déchaînait avec rage, mais l'humidité gelait sur nos vêtements. Même nos cils se recouvraient d'une couche de givre. Quand nous atteignions une auberge, nous ne savions pas comment descendre de nos chevaux. Le lendemain, il fallut de nouveau cheminer toute la journée. Le vent était tombé, mais la veille, il avait amoncelé de telles quantités de neige que nous ne réussissions qu'à grand-peine à les franchir. Nous dûmes mener nos chevaux à la bride presque tout du long. Les pauvres bêtes avaient assez à se porter elles-mêmes. Plus loin, nous arrivâmes dans une région marécageuse, sans pont, pour traverser les ruisseaux qui couraient dans tous les sens. La glace n'était en général pas assez solide pour supporter notre poids. Aussi, plusieurs fois, nous plongeâmes dans l'eau et nous n'en sortîmes qu'après 1000 efforts. Mais nous fûmes largement payés de nos peines quand nous vîmes l'empressement que mettaient les paysans à venir entendre le message que nous leur apportions de la part du Seigneur. La localité que visitait Wesley cette fois était Hepworth, le village où il était né. Jadis, on l'avait très mal reçu, le pasteur tout au moins, si bien qu'il avait dû annoncer l'Évangile au cimetière, debout sur la pierre tombale de son père. Mais depuis lors, les sentiments avaient changé du tout au tout, et maintenant on lui faisait un accueil chaleureux. Wesley veillait à ne jamais perdre une minute. Même à cheval, il lisait, tant que les chaos de sa monture ne l'empêchaient pas. Il s'intéressait aux disciplines les plus diverses, histoire, littérature, science, et prenait des notes copieuses sur tout ce qui se passait sous ses yeux. Quelques chiffres ici ont leur éloquence. John Wesley paraît avoir parcouru en moyenne 8000 km par an, à d'autres chevals, pour le faire. En 1743, par exemple, il passa 14 semaines à Londres, 10 à Bristol, 13 à Newcastle, 3 à Cornouailles, 12 à voyager d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas qu'il dédaignait le confort. On lit dans son journal, mine inépuisable de renseignements de toute espèce, et tenu avec la même rigueur qu'il apportait dans tous les actes de sa vie. Il disait « Je viens de passer une soirée très agréable et utile. J'étais chez des amis qui sont excellents de la terre. J'allais même dire « Il est bon que nous soyons ici », comme dans Luc 9, 33. Mais non, la voix de Dieu me dit « Toi, va et proclame l'Évangile ». Il en était si convaincu qu'il écrivait à son frère, alors qu'ils étaient tous deux fort âgés, « Voici à quoi nous sommes appelés, toi et moi, à avertir les hommes du danger qu'ils courent en demeurant dans l'incrédulité et à veiller sur leurs âmes, comme ayant à en rendre compte. Dieu te dit, autant qu'à moi, fais tout ce qui est en ton pouvoir afin d'amener des âmes à la connaissance du salut. C'est pour elles que mon fils bien-aimé est mort. » Et encore, notre affaire, ce n'est pas de prêcher tant et tant de fois, mais d'amener au salut autant d'âmes que nous pouvons, et ensuite de leur aider à progresser dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. En 1774, il écrivait « Ma vue est meilleure et mes nerfs plus solides qu'il y a 30 ans. Je ne suis atteint d'aucune des infirmités de la vieillesse et j'ai perdu plusieurs de celles de ma jeunesse. » Tout ceci est un don de Dieu. C'est en effet de son bon plaisir envers moi. Il m'a entre autres accordé de pouvoir toujours me lever à 4 heures du matin, cela depuis 50 ans, et de pouvoir prêcher à 5 heures du matin, pratique que je considère comme des plus salutaires pour le corps et pour l'âme. On peut ajouter que Wesley menait une vie extrêmement sobre. Ce qui frappait chez lui, c'était son extraordinaire sérénité, provenant de son absolue confiance presque enfantine dans la sagesse et les soins de Dieu. 10 000 soucis, disait-il, m'inquiètent aussi peu que 10 000 cheveux sur ma tête. Je les connais, j'y pense, j'en fais un sujet de prière, mais je ne m'en tracasse pas. Alors qu'il était presque cinquantenaire, malgré d'autres perspectives qui semblaient promettre mieux, Wesley épousa une veuve riche, mère de 4 enfants. Ce fut une grave erreur de sa part. Il fit entendre à sa femme qu'il n'aurait rien à démêler avec sa fortune, mais qu'il entendait garder toute sa liberté pour voyager au service du Seigneur. Madame Wesley refusa de l'admettre, rongée par la jalousie. Elle le suivait à son insu afin de l'épier et ouvrait les lettres qui lui étaient adressées personnellement. Au bout de 20 ans, elle quittait définitivement le domicile conjugal. Wesley avait atteint l'âge de 88 ans. En février 1791, il prit froid. Malgré une forte fièvre, il prêcha, ce fut la dernière fois, sur ces mots d'Ésaïe 55:6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. » Rarement on lui avait entendu une pareille puissance. Il regagna son logis pour n'en plus sortir. Au cours de la semaine, son état empira jusqu'à ne plus laisser d'espoir. Trop faible pour parler, sauf quelques mots ici et là, on l'entendit plusieurs fois rendre grâce à la bonté constante de Dieu envers lui. « J'étais un grand pécheur, mais Jésus est mort pour moi. » Ses dernières paroles furent « Ce qu'il y a de mieux, c'est que le Seigneur reste avec nous. Il permet à son serviteur de s'en aller en paix. » Le nom de John Wesley restera toujours attaché au grand réveil qui se produisit en Angleterre. Lorsque le Seigneur commença à travailler par son moyen, le pays était plongé dans les ténèbres spirituelles les plus profondes. La papauté avait perdu son autorité, mais ceux qui l'avaient secouée ne se souciaient pas d'être chrétiens. À la fin du 18e siècle, il n'est pas exagéré de dire que l'Évangile avait été annoncé dans tous les coins et recoins du royaume, soit par Wesley et Whitfield, soit par ceux qui suivirent leurs traces. Certes, ces serviteurs de Dieu commirent bien des erreurs. Néanmoins, ils prêchèrent la bonne nouvelle du salut par Christ dans toute sa pureté et dans toute sa simplicité. Ils plantèrent, ils arrosèrent, le Seigneur donna l'accroissement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Alors, comme application, nous pouvons certes ne pas partager toute la théologie enseignée par John Wesley. Cependant, nous devons reconnaître ses grandes qualités. Travailleur acharné ne reculant devant aucune difficulté pour faire avancer l'Évangile de Christ. Courageux, persévérant, amour du Seigneur et de la Bible. Audace dans les méthodes utilisées pour l'époque. Prédication en pleine rue et aussi l'acceptation des prédicateurs laïcs, etc. Prions le Seigneur de nous faire grâce de pareille qualité à son service pour sa gloire. Amen.
Amen.